France Inter. Bienvenue dans Au Livre, etc. Aujourd'hui, nous parlerons des récits que l'on s'invente pour tenir debout, avec deux écrivains qui explorent chacun à leur manière la fragilité des liens familiaux et la poésie du quotidien.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
J'aurai le plaisir d'accueillir d'abord Jessé Raymond Lacroix, comédien. Il publie chez Robert Laffont son premier roman, Les bateaux sur la terrasse. C'est un récit mélancolique situé dans le Var, au fort de la Bayarde, où le narrateur vient de donner une représentation. Mais le véritable spectacle se joue en contrebas sur la terrasse d'une grand-mère de 93 ans, Madeleine. Entre une mère dont on attend l'aveu et le fantôme d'un oncle disparu trop tôt, Jessé Raymond Lacroix remonte le fil des silences familiaux pour transformer la colère en un pardon possible. C'est un texte lumineux, très incarné, où l'on comprend que raconter, c'est aussi tenter de se tenir à bonne distance de ce qu'on aime. Puis nous parlerons du nouveau livre de Florent Oiseau, son sixième si je ne m'abuse, Ma gloire, publié chez Gallimard, où l'histoire d'un narrateur alcoolique, père, mari, homme cabossé, lucide et drôle, qui arpente Paris, ses bars, ses cimetières, ses rues, jusqu'au jour où sa fille, Lune, lui demande d'incarner une fée, guérisseuse, dans un spectacle d'école. C'est un livre porté par une langue orale, nerveuse, très touchante, qui dit la fatigue d'exister autant que l'attachement farouche à la vie. Un roman sur la chute, mais aussi sur l'amour filial, la paternité, cette forme de dignité bancale qu'on appelle parfois, faute de mieux, la gloire. Vous l'aurez compris, Les bateaux sur la terrasse et Ma gloire ont en commun une attention aiguë aux liens familiaux, au corps qui parle malgré nous, et à cette question centrale, comment continuer à se raconter sans se mentir, comment faire de la littérature avec ce qui nous déborde, ce qui nous fragilise aussi parfois. On parlera de tout ça avec nos auteurs du jour et avec nos libraires francophones qui nous accompagnent chaque semaine tout au long de l'émission. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Florent Oiseau, Jessé Raymond Lacroix. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Lilia.
Vos livres ont un point commun, la question de la mise en scène. Jessé, votre narrateur est un comédien qui raconte sa propre histoire sur scène. Florent, votre narrateur doit endosser le costume improbable d'une fée pour un spectacle scolaire. D'où ma question, est-ce que le fait de jouer un rôle, c'est paradoxalement le chemin le plus court pour dire la vérité ? Florent.
C'est une question que je me pose à chaque fois quand j'écris, parce que j'ai toujours pas la réponse après plus de 10 ans dans ce métier. Je sais pas si en tant qu'écrivain je joue un rôle ou pas. Je n'ai absolument aucune certitude. Je suis incapable de dire si je mens, si je triche, si au contraire je mets tout ce que j'ai. Donc je suis à la fois toujours à la lisière entre ce que j'ai l'impression de jouer, d'interpréter et ce qu'est vraiment la réalité. Donc j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je crois que une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours un moment dans nos vies dans lequel on est obligé de jouer.
Et vous, Jessé ?
Déjà, je suis content de ne pas avoir été le premier à répondre à cette question. Et je crois que pour moi, le narrateur me représente dans le roman, c'est de l'autofiction. Et je crois que c'est mentir vrai, l'autofiction. Si je dois citer Aragon, je crois, c'est lui qui disait ça. Et ce qui me permet sur scène, quand moi je le suis en tant qu'humoriste, de me raconter dans le roman, en tant que moi-même, me permet d'aller chercher la vérité, une vérité qui est un peu plus mordante et un peu plus crue que ce que je fais sur scène.
C'est un livre qui a été difficile à écrire. Vous avez mis combien de temps ?
J'ai mis 1 an et demi à l'écrire. Comme c'est mon premier roman, je ne sais pas si c'est long ou je ne sais pas si c'est pas long. En tout cas, ça a été mon processus à moi. Beaucoup de larmes pour aller piocher dans les souvenirs traumatiques de ma famille et dans les miens aussi. Mais également, à la fin, une lumière et l'espoir de peut-être réconcilier ceux à la fois qui sont partis et ceux qui sont encore vivants.
C'est pour ça que vous l'avez écrit, ce livre ?
Oui, je crois. À la fois pour me faire du bien, pour apaiser ma colère et aussi pour retrouver ma mère.
Et ça a fonctionné ?
Pour l'instant, oui. Quand elle l'a lu, il y a très, très peu de temps, elle m'a dit merci pour ce cadeau. Alors je crois que peut-être j'ai réussi ce que je voulais faire.
C'est la question qu'on se pose quand on vous lit, on se dit mais comment son entourage, comment sa famille a accueilli ce livre ?
Oui, c'est vrai que souvent, parfois, les auteurs, quand ils écrivent sur leur famille, ils attendent qu'ils soient morts. C'est pas ce que j'ai fait. Je crois que je pouvais pas attendre. J'ai quand même attendu. Ça faisait longtemps que c'était en moi, cette histoire. J'ai attendu d'avoir 33 ans, l'âge du Christ. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Mais en tout cas, ma mère m'a laissé vraiment carte blanche. Elle n'a pas voulu s'immiscer dans le processus de création de ce livre et elle m'a fait un cadeau extraordinaire en faisant ça. Et elle m'a juste demandé de le lire avant tout le monde, ce que j'ai refusé, évidemment. Non, évidemment, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Et elle a fait un retour absolument magique. Elle attendait fébrilement, je sais. Mais tout ce que je dis dans le livre, elle le savait. Il n'y a aucune révélation. Il n'y a aucun couteau dans le dos.
Elle ne vous a rien demandé d'enlever ?
Alors, une phrase. Une phrase sur ses cheveux qui deviennent blancs.
Ah oui.
Elle doit être contente que vous le disiez en plateau.
C'est une note dans le roman où c'est un petit astérix.
Et vous, Florent, alors à peu près la même question. Pourquoi, enfin plus large d'ailleurs, pourquoi vous écrivez?
Parce que j'ai pas trouvé de meilleure façon de m'en aller. Parce que je sais pas faire grand chose d'autre. J'ai essayé pourtant, j'ai un CV qui le prouve. Très rapidement, j'ai compris que le salut viendrait de là. Et j'ai jamais eu de plan B. Souvent, dans les rencontres croisées, en salon, j'entends des auteurs et je crois en leur parfaite sincérité qui expliquent qu'ils ont tout sacrifié pour l'écriture. Moi, j'ai rien jeté dans le feu parce que il n'y avait pas d'autre solution. J'ai commencé à écrire mon premier roman. Je travaillais dans une usine de pain de mie sans croûte, donc je me doutais que c'était peut-être pas une vocation. Et donc, j'écris parce que je pense qu'il n'y avait que ça pour moi.
Et d'où il est venu ce personnage de fée ?
J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer pourquoi est-ce que je fais un livre. Et une fois qu'il est terminé, j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer pourquoi il est fait. Et ce qui se passe entre, j'en suis à la fois totalement décisionnaire et spectateur. Ce qui est sûr, c'est que je me souviens à peu près du point de départ. Je suis rentré des courses et... Alors, peut dire avec quasi certitude de ne pas avoir croisé de fées ce jour-là au Carrefour City, mais pour autant j'ai dû voir un cabossé ou quelque chose, ou en tout cas un être qui m'a paru romanesque, et tout de suite j'ai vu le décalage. J'ai vu ce père de famille à la dérive, et je lui ai vu des ailes à paillettes dans le dos, et l'histoire, là, une fois que je suis rentré à la maison, je savais que j'avais un livre.
Oui, j'ai eu le sentiment, en fait, en vous lisant, d'une volonté de montrer aussi tout ce qu'il peut y avoir de féerique dans les PMU, dans les rues crado, dans ce monde qui est parfois considéré comme pas assez digne d'être raconté.
Mais pas tellement parce que je me sens messager. C'est, quand j'écris un livre, c'est jamais un manifeste, mais parce que c'est ma réalité. C'est vraiment les endroits dans lesquels je traîne. Il n'y a pas un bar rive droite où on ne m'appelle pas par mon prénom quand j'entre. Donc c'est vraiment ma réalité et je ne sais parler que de ce que je connais. Et puis il doit y avoir, peut-être pas un sentiment de revanche, mais je pense que ça m'amuse de mettre sous le feu de mes modestes projecteurs des cibles qui n'avaient pas vocation à en être.
J'essaie de la même manière. Est-ce que la scène vous aide à rendre visible aussi ce qui a été longtemps caché ou tu, y compris dans votre famille?
Oui, la scène a été pour moi un exutoire nécessaire, et c'est encore différent dans le roman. Sur scène, on se cache un peu parfois avec l'humour. Ce que je fais aussi,
oui,
parfois,
dans le roman aussi.
Quelques fois, mais vraiment à un degré beaucoup moindre que sur scène, ou que ce soit dans mes chroniques ici. En tout cas, la scène m'a aidé à accoucher de ce roman. Je crois que si j'étais pas passé par l'étape de la scène et du seul en scène, je sais pas si j'aurais eu la maturité nécessaire pour écrire Les bateaux sur la terrasse.
Oui, parce que je me disais que c'était pas rien de chercher autant de moyens d'expression pour s'exprimer.
Peut-être que j'essaye de me guérir par tout ce que j'entreprends. En tout cas, ce roman, il est vraiment né de ma mère qui vient voir le spectacle et qui en est déçue. Et ça m'a achevé. Ça m'a vraiment fait terriblement de mal. Et donc, j'ai essayé d'apaiser ça en dialoguant avec elle à travers ces lignes.
Le titre de votre livre, Les bateaux sur la terrasse, à la lecture, on comprend que c'est une illusion d'optique, puisque vous êtes sur la terrasse de votre grand-mère, vous avez l'impression que les bateaux flottent au-dessus. Oui. Mais vous dites aussi que ces bateaux, ils vous ressemblent. En quoi ils vous ressemblent ?
Ces bateaux, ils me ressemblent parce qu'ils sont à la fois lointains et très lourds, et qui vont dans des directions où on ne sait pas vraiment jusqu'où ils vont voguer. Et parfois, c'est un peu ce que je ressens en moi, comme si j'avais un poids très lourd qui va dans des directions et je ne les contrôle pas. Et je crois qu'il faut les saisir, ces poids, pour les mener à bon port avant qu'ils atteignent des rivages qu'on ne peut pas contrôler et qui sont la colère, l'acrimonie ou la rancœur.
Au cœur de vos romans à tous les deux, il y a également, on en a déjà un peu parlé, mais la question de la filiation. Florent Oiseau, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre à ce sujet.
Je le pense depuis longtemps. Le permis de conduire et les enfants sont les deux seules choses accessibles à n'importe quel imbécile, mais susceptibles de donner à cet imbécile une contenance, l'impression d'être quelqu'un d'accompli. Il y a dans cette représentation permanente de la mère courage ou du bon père de famille une dimension qui m'échappe. Les gens se sentent importants quand ils deviennent parents, je ne comprends pas pourquoi. Je vois juste des adultes contents d'être privés de liberté en échange du droit de jouer à la poupée. Je ne retire aucune fierté dans le fait d'être père. En revanche, je suis fier d'être le père de Lune. En dépit de son étonnante maturité, je ne l'imagine pas au potentiel ou hypersensible comme le sont vraisemblablement tous les enfants de l'école. Mais elle est drôle et elle essaye de faire le bien quand c'est possible. Le reste, c'est un bolduc. Je la regarde sonder le paysage derrière la vitre. Je sens qu'elle habite ce monde d'une façon à la fois singulière et ordinaire. Ça me semble être la seule solution pour l'aimer et l'appréhender.
Tout le monde aimerait avoir des parents qui parlent comme ça, non?
Oui, oui, moi j'ai lu Ma Gloire et ça m'a beaucoup touché aussi sur... c'est drôle également, vraiment, c'est très drôle. Il y a des tournures de phrases où je rigolais dans mon lit.
Oui, si je suis adoubé par un maître du domaine, je peux rentrer chez moi. Merci, j'essaie.
Habiter le monde d'une façon à la fois singulière et ordinaire, c'est ce que vous faites très très bien tous les deux. On se retrouve dans quelques instants, on abordera la question du pardon. Est-ce qu'on peut vraiment pardonner à ses parents? On en parle, mais d'abord on écoute Josman Mateus.
Tout de bien grâce à sa Deus, je pète une bouteille de Mateus. J'ai le flow de Brésil vini, elle est sexy à l'infini. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. C'est à ma fin, y'en a d'autres sur la paille. Qui se lève tôt pour cette maille. J'ai tout vu, même l'envers du décor. J'ai même vu en dessous de l'iceberg. J'suis dehors comme un chat de gouttière. J'sais qu'il restera qu'un tas de poussière. La nuit tard, j'ride seul sous la lune. J'ai du mal à traverser la brume. Sur le bitume, trop d'amertume. J'tire, j'fume, j'fly sur Neptune. J'prends mon duche pour mon bif, j'm'arrache. Que la mi reste nique sa race. Tout de bain grâce à sa Deus. Sur la plage, pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, j'connais le prix de l'erreur. La vie ne m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bien, muito obrigado. Tout de bien grâce à Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. Carrément, j'ai rêvé un dernier verre. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la CLSA. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. J'me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout, bébé, falla comico. Commande une deuxième caipirine. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Désolé, je n'aime pas ce jeu. On ne joue pas avec le feu. J'prends sur moi pour contenir les nerfs. Le sang remplit le container. J'étais un chien devant l'abribus. Scam scam pour des habits de luxe. J'ai réclamé la paix dans mes prières. J'sens la zèbre alourdir mes paupières. J'regarde la ville à travers la window. Dis-moi tout bébé, falla conmigo. Ma chérie veut un dernier drink. Dans le noir, j'mets le plaque dans le pic. La nuit, je ne dors que d'un seul œil. J'pense qu'à remplir le portefeuille. J'prends mon duche pour mon bif, j'm'arrache. Que la mifle reste nique sa race. Tout de bien grâce à sa Deus. Sur la plage, pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, j'connais le prix de l'erreur. La vie ne m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bien, muito obrigado. Tout de bien grâce à sa Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. Carrément, j'ai rêvé un dernier verre. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la CLSA. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. J'me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout bébé, falla comico. Commande une deuxième caipirine. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le... Muito obrigado.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Florent Oiseau et Jessé Raymond Lacroix. Florent, votre narrateur est hanté par l'idée de n'être pas assez le père qu'il devrait être pour Lune. Jessé, vous ouvrez votre roman sur une citation d'Oscar Wilde. Les enfants commencent par aimer leurs parents. Devenus grands, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Et vous dites plus loin que, je vous cite, « Les pardons trop rapides ressemblent à de l'oubli ». Est-ce que vous avez réussi à pardonner l'un et l'autre à ceux qui vous ont offensé, Florent ?
Je pense que dans le fait de pardonner, y a une espèce de dimension aérienne, séraphique. Il y a quelque chose qui nous élève dans le fait de pardonner. Je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois. J'ai la chance, on ne m'offense pas souvent non plus. Donc j'essaye de le faire de plus en plus parce qu'on ne perd jamais en fait, quand on pardonne.
J'essaie.
Oui, je suis très d'accord avec ça. Je crois que je suis dans un processus de pardon avec ma mère. Ce livre a beaucoup aidé parce qu'il a renoué le dialogue. On se reparle, on s'appelle plus souvent, on se parle de vraies choses et plus seulement du beau temps. Et je crois que c'est ça aussi, renouer le dialogue, ça permet infiniment de penser les plaies. Mais c'est compliqué, hein. Des fois, on a juste envie d'en vouloir pour toute sa vie parce que c'est plus simple.
Est-ce qu'il y aura d'autres livres après celui-ci ?
Je ne sais pas. Tout comme je ne sais pas s'il y aura d'autres spectacles. Je pense oui, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet exercice. Maintenant, quand ? Je ne sais pas sur quoi, encore moins. Mais oui, très certainement.
Dans cette émission, on reçoit chaque semaine des libraires francophones. Et cette semaine, J'essaie vos bateaux ont fait escale au Canada. Et plus précisément au Québec, où nous retrouvons Mike Viennot de la librairie Médiapole à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour Lilia.
Je crois que vous avez aimé embarquer à bord de ce premier roman.
Ah oui, Lilia, beaucoup. Je me permets de vous appeler par ce prénom parce que ce roman me rapproche de vous. Parce que dans votre récit, vous pratiquez une brèche qu'on ne peut colmater, qu'il ne faut pas suturer, mais bien une ouverture accueillante qui rend intime le lien avec le lecteur. Je crois dans toute la maturité candide que vous exposez, ou est-ce plutôt une naïveté épanouie, qu'il y a de multiples versions dites, répétées, écrites dans votre tête. Pour si bien nous décrire les lieux, nous crayonner les détails physiques, nous suggérer les traits psychologiques, il faut avoir souvent répété ce texte, comme l'acteur que vous êtes ou le chroniqueur à la radio.
Et ce qui vous a plu, Mike, c'est à la fois le texte écrit, mais aussi le don qu'a GC pour une véritable écriture thérapeutique.
Oui, il est souvent difficile de parler de soi sans risquer d'écorcher les autres. Je crois que vous avez la tendresse pour éviter les écorchures, celles que vous pourriez faire aux autres, car les vôtres, on le voit, ce sont de longues scarifications que vous soignez par la parole dénouée, une genre de parole désinfectante. Une parole qui s'empare aussi des images de l'intime. Vous écrivez « Les photographies sont cruelles, elles enferment ce qui a été sans jamais rien promettre de ce qui sera ». C'est pourquoi j'ai aimé ces bateaux sur la terrasse, qui sont des points mouvants ou émouvants sur l'horizon qui créent un trait entre les personnages. Ce point d'ancrage, cette ancre qui retient tout en libérant en même temps pour mieux pardonner ou mieux comprendre. Et vous avez si bien su doucement parler du pardon, d'amour maladroit mais existant, en sachant très bien faire rimer désir et tendresse, aveu et silence. Pour conclure, j'aurais envie en fait de résumer ainsi votre premier roman, Face à la mer. La face de votre mère, le goût des regrets amers.
Voilà la poésie de Mike.
Merci Mike, merci, je suis très touchée, je vais aller m'installer au Canada moi.
Ah ouais, bienvenue. Vous aviez une très bonne question Mike pour GC.
Oui, j'avais une question pour vous. Si vous n'aviez pas fait de scène avant, ce livre aurait-il été possible, ou en fait plus précisément, est-ce que vous vous seriez autorisé de dire autant, sachant que la voix de l'acteur a pu sans doute animer la voix de l'auteur?
Merci Mike pour cette question. Je crois que j'aurais pas eu la maturité nécessaire si j'avais pas fait mon spectacle et j'aurais pas eu l'avancée dans ma vie qui est la mienne aujourd'hui pour pouvoir m'adresser en ces termes parfois crus mais nécessaires à ma mère. Et je crois que si ce livre était sorti plus tôt, il aurait été beaucoup plus amer, il aurait été beaucoup plus agressant et agressif. Et je crois que c'est pas ce qu'il faut. Donc je suis content d'avoir attendu.
Et Mike, vous avez vu, vous, une autre métaphore dans le titre du livre de GC Raymond Lacroix.
Oui, je vois que les bateaux, vous les regardez de loin, craintifs d'embarquer sur l'un d'eux, mais ne sont-ils pas, en quelque sorte, la métaphore de tous ces amoureux vus et croisés avec lesquels vous n'avez pas pu naviguer?
Eh bien, peut-être, Mike, je le présenterai comme ça, maintenant. Mais alors, est-ce que ces amants sont des paquebots ou des voiliers?
Ça, c'est autre chose.
J'ai adoré votre question thérapeutique, Mike, psychanalytique presque.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Mike.
Ça me fait plaisir.
Merci infiniment.
Florent Oiseau, vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait beaucoup de métiers dans votre vie. Vous avez embarqué à bord de trains, notamment, mais jamais de bateau.
J'insulte pas l'avenir, mais je suis un piètre nageur. L'avantage du train, c'est que je pouvais m'échapper si j'en avais marre. Je l'ai jamais fait, mais il y avait quelque chose d'assez...
C'était le Paris-Venise.
Le Paris-Venise, ouais. Pas l'Orient Express, hein, une espèce de version beaucoup moins...
Un peu moins... un peu moins luxueuse.
Ouais, qui avait comme titre, c'est véridique, d'être le train le plus en retard d'Europe.
Donc ça, vous allez bien.
Et je suis assez ponctuel finalement comme garçon. J'adorerais être en retard. Je trouve ça très sexy, l'écrivain qu'on attend, on sait jamais. Alors qu'en fait, moi, je suis toujours en train de poireauter devant 10 minutes en avance. Mais j'adorerais être en retard et peut-être que je serai en retard dans cette carrière d'homme de bateau.
Et vous qui avez fait plein de petits boulots, vous avez choisi un narrateur au chômage.
Parce que j'ai quasiment j'ai épuisé tous les métiers que j'ai fait dans mes précédents romans et je serais bien incapable de raconter le quotidien de quelqu'un dont je ne connais rien des réalités du métier et donc ça me fatigue et je pense que maintenant ils seront tous soit rentiers soit chômeurs. Mais bon, vu mon pédigré, je pense qu'on sera plutôt chômeur que rentier.
J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, cher GC. C'est le moment où vous sortez de scène et vous allez boire un verre avec votre mère.
Le serveur rend le sourire au centuple. Vous êtes la maman, j'imagine. Super spectacle. D'un coup, me voilà exclu d'une conversation qui me concerne, le garçon ne m'ayant pas exprimé directement son enthousiasme. Est-ce ma mère qui sort de scène ? Je ne dis rien. Je ne voudrais surtout pas qu'on pense que j'accapare le mérite d'une autre. Vous devez être fière. Toujours aucun regard pour moi. Je l'observe, son grand sourire s'est fait plus mince, la commissure de ses lèvres moins souple. Cette phrase devrait provoquer l'effet inverse chez un parent. Oui. Un petit oui, gêné, surgit, il reste en suspens, en attente d'une suite comme les autres protagonistes autour de cette table, et finalement la sentence tombe. Même s'il ne dit pas à sa maman qu'il l'aime, lâche-t-elle. Je suis désarçonné, mais à chaque fois je retombe dans le piège, je me dis que je vais l'ignorer, que la phrase ne m'atteindra pas, mais elle atteint son but parce qu'elle n'est pas qu'une phrase, elle est ma mère, entière, avec ses mots blessants dilués dans l'ordinaire, et cette façon de poser son regard sur ma vie, comme si elle en était la co-auteur.
Merci beaucoup, GC. Mais alors, votre mère, c'est pas la co-auteure de votre vie ?
Mais non, j'essaye en tout cas de m'affranchir de ça. Elle aimerait bien, mais non, j'essaye d'en être l'auteur principal.
Et en fait, je me suis dit en lisant ce passage que c'était aussi effectivement une manière d'affirmer « je suis l'auteur » et de poser une autorité.
Exactement, exactement. Mmh. Pendant trop longtemps, j'ai essayé de rendre mes parents fiers, j'ai essayé de faire beaucoup de choses pour qu'ils me valident toujours dans leur regard et en y arrivant très peu de fois. Et là, j'essaye avec ce roman de me réapproprier ma vie, quoi.
Justement, vous avez échappé à un écueil qui aurait été le livre Règlement de compte. Comment on fait pour échapper à ça ?
Eh ben, dès le départ, je savais que je ne voulais pas faire ça. Je savais que ce livre, il devait me réconcilier, il devait comprendre, il devait se mettre à la place de, plutôt que de pointer du doigt. À chaque étape de l'écriture, c'était aussi un travail avec mon éditeur, on a toujours fait en sorte que le message passe, comme quoi c'est de l'amour. Et si jamais, parfois, j'étais un petit peu trop violent ou justement un peu trop injuste, je rectifiais le tir parce que c'est vraiment pas ce que je voulais, parce que je voulais réparer vraiment infiniment le lien avec ma mère. Et ça aurait été terrible si ce livre sort et que ça l'éloigne encore plus.
Et justement, ça a été quoi le travail de votre éditeur sur ce texte ?
Alors moi, vu que c'est un premier roman, je ne savais pas trop quel était mon style. Je pouvais simplement me nourrir des auteurs que j'aime. Et son travail, ça a été parfois quand j'ai appris que j'aimais beaucoup d'écrire. Et c'est vraiment quelque chose que je me suis laissé faire beaucoup dans le roman. Et parfois, c'était un peu long. Donc le travail de l'éditeur, c'était aussi de dire, il faut qu'on avance. Oui. Donc parfois, voilà, c'était attention. Le travail de mon éditeur était de me décoller un peu le nez de la feuille. Et, parce que c'est dur dans l'autofiction.
Oui, d'avoir une vue d'ensemble aussi sur le texte.
Exactement, exactement. Et puis parfois de remettre, par exemple, j'avais parfois vu, en écrivant des chroniques et en écrivant le spectacle, un style très parlé. Du coup, parfois on a réajusté un petit peu et c'est vrai que je me suis plus retrouvé dans un style plus littéraire que parlé. Et j'ai appris que c'était possible. Je savais pas que c'était possible vu que j'écris que des chroniques et des spectacles.
C'est vous qui avez eu le projet de ce roman en premier. Comment ça s'est fait ?
Oui, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête. Je savais pas si j'allais en faire mon deuxième spectacle ou un roman. Ah. Il s'avère que ça a été un roman parce que aussi j'ai rencontré mon éditeur et on a discuté ensemble de l'éventualité d'un texte. Et c'est ça qui est sorti parce que c'est ça qui devait sortir depuis un moment.
Vous, Florent Oiseau, je me suis demandé sur ce texte précisément, quel a été le travail de votre éditrice ?
En règle générale, quand je rends le texte, on me dit merci. Non, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, parce que j'ai changé.
Vous étiez chez Alary avant.
Exactement. Et donc j'ai changé d'éditeur. Elle a pas bouleversé le texte. En revanche, toutes ses interventions l'ont amélioré et elle y a apporté peut-être. Peut-être plus de densité, notamment dans la question amoureuse avec sa femme, qui était peut-être parfois délaissée du roman, alors que dans son cœur, elle occupe une place hyper importante. En tout cas, c'est une éditrice qui se place toujours au-dessus du texte, mais qui n'essaye pas de s'insérer dedans. Et donc, c'est très appréciable. Et ouais, non, son regard a été un plumeau et a permis de débarrasser le texte de ses petites scories et des gratuités qui n'avaient pas lieu d'être.
Florent Oiseau, dans votre livre, votre narrateur a un carnet dans lequel il note toutes ces phrases, je mets des guillemets puisque c'est la phrase, c'est ce que vous dites dans votre livre, des phrases sentencieuses. Est-ce que c'est votre cas aussi ?
Non, pas du tout. Sinon, ça deviendrait une mise en abîme comme la boucle d'oreille de la vache qui rit dans laquelle il y a une boucle d'oreille. une vache qui rit.
Bon, oui.
J'ai un carnet très rapidement, mais quand je dois partir sur un lieu, mon roman se passe dans le 20e, je ne sais pas pour qui je me prends, mais on n'est pas sur du Tesson. Mais en tout cas, quand j'ai l'impression qu'un endroit va me servir, oui, je prends un carnet, mais il n'y a vraiment aucune rédaction. Je note juste l'angle de rue. Mais je me demande si je pose pas un peu quand je fais ça. Je dois avoir l'impression que c'est vraiment mon travail.
Ça y est. Oui. Ça y est, vous êtes romancier.
Oui, si jamais j'allais observer les oiseaux, je prendrais des jumelles et une sacoche. Mais donc là, je suis écrivain, donc il me faut un carnet et un stylo. Mais non, pas de. Non, je note rien d'éminent.
De campagne où je suis né, douce compagne de mes jeunes années, la ville pleure et ses larmes de pluie dansent et meurent sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, mon ami. Verte campagne, que tu es loin, douce compagne de mon premier chagrin. Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé. De bras m'enlacent parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi, mon amour. Là dans la ville, toutes ces mains tendues m'offrent des fleurs et des fruits inconnus. Et moi je vais le long des rues perdues. Un air de guitare me parle de toi, ma verte campagne où je suis né. Douce compagne de mes jeunes années, la ville chante et parpille sa joie. La ville chante, mais je ne l'entends pas. Et moi je rêve de toi, mon amour. Et moi je rêve de toi, mon amour.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Henri Salvador, Verte Campagne, et nous sommes toujours en compagnie des écrivains Florent Oiseau et Jessé Raymond Lacroix.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Et nous retrouvons en studio avec nous Sandrine Babu de la librairie L'Instant à Paris 15. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous êtes une fidèle lectrice de Florent Oiseau.
Oui, tout à fait. Florent Boisseau, je suis contente de vous retrouver pour votre cinquième. Et quand je le dis, je ne sais pas si c'est cinq ou six, j'ai un gros doute.
C'est sixième.
Aïe, 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 voilà.
Depuis le temps qu'on se connaît, Sandrine, ça commence bien. Aïe, aïe.
Dans tous vos livres, vous écrivez à la première personne et à chaque fois, on a l'impression que c'est de vous dont il s'agit. Mais comme vous ne pouvez pas à la fois avoir 50 ans et 35 ans, être célibataire impénitent et père dépassé, c'est que vous avez le talent de nous le faire croire. Alors, je me suis attachée à votre narrateur, parfois agaçant, cet alcoolique qui ne s'ignore pas, sans ambition, qui se montre avec ses contradictions, ses petites lâchetés, s'invente des histoires. Il croit tirer les ficelles, mais se fait parfois manipuler.
Et c'est justement ce double niveau de lecture qui vous a plu, Sandrine.
Oui, moi j'aime le petit monde que vous créez, votre poésie, votre fantaisie, votre tendresse, votre humanité. Parfois dissimulée sur une couche un peu caustique, j'aime aussi votre attention portée à ceux dont on ne parle pas d'habitude et à ce quartier populaire de Paris, à cette, je vous cite, « symphonie du pas grand-chose ». Et votre roman est drôle. Et pourtant, on sait que c'est très difficile l'humour dans un livre, dans un spectacle aussi, j'imagine, j'essaie. Vos phrases font mouche, vos ugmas par exemple, avec cette jeune femme qui fait l'amour ou des tourtes selon ses humeurs et l'état du frigidaire, et votre narrateur qui aime les virages, l'alcool et perdre son temps. Vous parlez avec légèreté de sujets graves, l'alcoolisme, les difficultés de couple, la paternité, en restant toujours sur un fil, et ça donne un livre où j'ai souri souvent et aussi cédé à l'émotion.
C'est vrai que c'est très dur l'humour dans les livres, mais c'est vraiment quand même votre langage à tous les deux. Qu'est-ce que ça vient masquer, l'humour, Jessé?
Je crois que parfois, quand c'est trop dur et que le sujet est trop profond, trop sérieux, moi j'ai besoin de dédramatiser toujours, mais parce que c'est comme ça que je fonctionne dans la vraie vie avec mes amis ou autour de ce plateau. Et je crois que ça permet aussi de se dire qu'on ne se prend pas trop au sérieux, et c'est un exercice qui pour moi est salutaire et nécessaire, surtout dans l'exercice de la littérature et du roman qui pourrait se regarder un peu trop le nombril et être un peu trop sérieux.
Et vous, Florent ?
Dans la vie de tous les jours, je me fais rire à m'en tenir les côtes, mais quand j'écris, jamais. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que je vise, et surtout avec le recul, j'ai l'impression, on vit dans un pays qui entretient une relation étroite et particulière à ses auteurs, à ses livres. Merci Sandrine, au fait, pour tout à l'heure. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a dit d'un livre qu'il était drôle, on a tué le livre. C'est-à-dire que s'il est drôle, il ne peut plus être profond, il ne peut plus être mélancolique, et il ne peut presque plus être bien écrit. Alors qu'on se sert volontiers à l'étranger, il y a des auteurs comme Mendoza ou Levison qui nous font rire et qui en plus, dont on salue les qualités d'écriture. Donc je suis très mal à l'aise avec la question de l'humour parce que j'ai presque l'impression qu'au fil du temps, ça m'a desservi. D'autant que c'est quand même quelque chose qui est hyper subjectif. Je pense que sur la beauté et l'intelligence, ça peut assez rapidement faire consensus. Mais sur l'humour, tout ne nous fait pas rire. On ne place pas les curseurs au même endroit. Moi, à la suite d'un imbroglio, j'ai un de mes livres qui s'est retrouvé avec le bandeau « Livre le plus drôle de l'année ». C'était l'histoire d'un proxénète qui faisait travailler ses travailleuses dans un camion réfrigéré. Quand j'ai un jour sur un salon une dame qui m'a dit ça ce sera super pour les copines de la paroisse, je me suis dit, Donc la question de l'humour, je la trouve assez problématique parce que à la fois je trouve que parfois elle jette une sorte de flou sur le contenu du livre, et puis parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. En tout cas, je sais que je fais pas rire tout le monde.
Et Sandrine, vous aviez deux questions.
J'en avais même plein d'autres, mais j'ai dû en enlever. Florent, on imagine à la lecture de votre livre que vous êtes un grand observateur. Combien de temps avez-vous dû passer dans les rues et les bars de votre quartier avant d'écrire ce livre?
Je suis un stacanoviste, donc j'ai passé énormément de temps à observer. En règle générale, ça vient assez vite. C'est-à-dire que sur une promenade, j'ai assez rapidement ce qu'il me faut. Les cafés, effectivement, pour moi, c'est une source perpétuelle d'inspiration. La phrase que je préfère dans le livre, elle est pas de moi. On était le bar que je fréquente souvent avait fermé, et puis on se racontait nos vies et là où on était il y a 15 ans, et il y a un habitué que j'aime beaucoup, qui est quasiment mon dialoguiste de référence, qui pour une fois était un peu taiseux, il était arrivé tôt le matin, donc il n'y a plus grand chose à dire, et je lui dis, et toi, au fait, Fred, tu préfères ta vie d'aujourd'hui ou ta vie d'avant? Et il m'a répondu, je me souviens d'aucune des deux. Et là, j'ai su que j'avais déjà un dialogue, et donc après, j'avais fini ma journée de travail, mais donc En règle générale, je trouve que quand on prend le temps d'observer les autres et de les écouter, les choses peuvent venir assez rapidement et on peut facilement en extirper de la poésie, de la mélancolie.
J'essaie, vous aussi, c'est finalement un talent d'observateur qui est absolument nécessaire pour... que ce soit pour l'humour ou pour la littérature aussi.
Oui. Moi, par exemple, dans les descriptions du roman, ça a été un vrai travail de mémoire sensorielle, de me rappeler les odeurs, de me rappeler le rugueux du mur, de me rappeler le sol qui glisse. Et plus que le temps passé dans ces lieux, c'est plutôt la mémoire sensorielle que j'ai interrogée, surtout pour les odeurs du sud, pour le soleil qui écrase tout. J'avais envie que quand on lit le roman, on soit plongé à la fois dans ce tableau et dans ce lieu, parce que parfois quand je lis un roman et qu'on me décrit un lieu trop rapidement, j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à y être à la place
du
narrateur.
C'est vrai qu'il faut prendre le temps d'installer les scènes. Ouais.
C'est ce que j'avais envie de faire, j'avais envie que les gens sentent la lavande et entendent les cigales.
Et Sandrine, vous aviez une autre question.
Oui, je le faisais remarquer tout à l'heure, tous vos livres sont écrits à la première personne, j'espère que là je ne me trompe pas. C'est un choix délibéré ou c'est parce qu'en fait vous avez essayé d'écrire autrement et ça ne fonctionne pas? Enfin, pourquoi toujours à la première personne?
Florent Oiseau.
J'ai pas encore résolu. En fait, j'ai l'impression, paradoxalement, qu'on peut peut-être prendre plus de distance avec le jeu. En tout cas, il n'y a rien de pire quand, en tant que lecteur, quand je lis un livre écrit à la troisième personne et que je sens qu'il y a un jeu qui meurt d'envie de sortir de là et qu'il y a beaucoup de nombril dans le livre. Donc, finalement, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on se déguise beaucoup plus avec le jeu. Et il y a aussi peut-être quelque chose de... Vraiment, quand j'ai commencé à publier, je pense que j'avais lu peut-être 5 livres dans ma vie. Et donc, j'ai vraiment tapé sur Google combien de mots pour écrire un livre, comment... Et donc, probablement que dans les 5 que j'avais lus, les 5 étaient écrits à la première personne. Et ensuite, j'ai commencé à travailler comme ça et j'ai pris le pli. Mais je trouve le jeu très agréable. Et puis, j'ai dû penser, en tout cas en commençant, que c'était comme ça qu'il fallait faire.
Et vous avez continué.
J'ai continué. Ouais.
Et maintenant, ça vous viendrait pas... Enfin, vous n'avez pas forcément envie d'écrire un livre à la troisième personne. Ce n'est pas une chose à laquelle vous pensez.
Il faudrait que je le fasse, Lilia, vous pensez?
Non, on peut avoir une idée, par exemple, de peut-être plus... Enfin, là, c'est des livres d'imagination, mais c'est vrai que vous pourriez avoir envie de vous plonger dans un autre monde. Après, ça n'empêche pas la première personne. Mais est-ce que c'est une idée qui vous a traversé à un moment?
Non, pas encore. Mais peut-être un jour, peut-être, je ne sais pas.
Et vous, Jessé, c'était forcément la première personne?
Oui, parce que je crois que la première personne permet beaucoup plus et permet d'intégrer aussi. J'avais envie que le narrateur soit partie prenante du récit et j'alterne. Moi, dans les flashbacks, je passe à la troisième personne. Et parce que j'avais envie que là... on comprenne que c'est plus le même style, que c'est plus la même période et que le narrateur est extérieur aux événements qu'il vit. Et donc j'ai alterné entre les deux, entre le présent et le passé.
Mais c'est quand même plutôt un roman, majoritairement la première personne.
Ouais. J'aurais trouvé ça un petit peu
parce que vous auriez pu vous cacher en fait derrière cette troisième personne.
En fait, j'avais l'impression que si j'utilisais le « il », exactement comme ce que Florent vient de dire, ça allait être beaucoup trop voyant que je me cache. Et du coup, j'ai choisi l'honnêteté du jeu.
Vous travaillez où tous les deux quand vous écrivez? Florent.
J'allais répondre à France Inter.
Florent Oiseau. J'allais répondre nulle part. Je travaille exclusivement dans mon lit. Je crois que c'est probablement
allongé.
Ce qui est allongé. Ouais.
Ok.
Ouais. C'est ma position préférée pour à peu près. Enfin, non, ça, je le garde. Mais je sais pas écrire au café, je sais pas écrire dans les trains. Et j'ai longtemps vécu dans des appartements où je pouvais pas être ailleurs que dans mon lit. Donc je ne travaille que dans mon lit et quasiment que la nuit. Enfin, maintenant ça évolue un petit peu, mais je pense que j'aurais jamais eu l'idée d'écrire des livres en journée. Donc comme l'idée m'est venue la nuit, et j'entretiens un rapport très, très intime avec cette période de la journée.
Et qu'est-ce que vous faites la journée?
Eh ben, j'attends que la nuit arrive. Mais il y a une époque où c'était vraiment, il y a une époque de ma vie où c'était mon seul diplôme. Quand je rencontrais des gens en soirée, qu'on me disait « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je disais « je me couche tard ». Et puis c'était pas souvent la nuit, on imagine quelque chose, on imagine des espèces de mondanité. Moi, j'étais pas rue de Ponthieu avec des filles à mon bras. Quoi. J'étais dans mon petit studio dans le 93 et à mon bras, vous voulez pas savoir ce qu'il y avait. Donc, en règle générale, dans mon lit et la nuit.
Ouais. Et vous, Jessé, vous l'avez écrit où ce livre?
Dans le lit de Florent, également.
Il est d'une discrétion absolue. Et il sent très bon.
Moi, merci. Je l'ai écrit, alors moi pareil, je ne sais pas travailler dans les cafés, je ne sais pas travailler dans les restaurants ou dehors, je l'ai écrit chez moi, mais à mon bureau, dans ma petite pièce où j'écris mes chroniques et où j'ai écrit mon spectacle. Et en revanche, je suis vraiment un employé de l'écriture, c'est-à-dire que j'ai des plages qui sont de 9h à 13h et de 14h à 19h. Et après, je serai Hermione Granger dans l'organisation. Et après, je n'écris jamais la nuit, parce que sinon, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser, étant donné que si j'écris la nuit, ça veut dire que jamais je ne m'arrête entre le spectacle, les chroniques, le jour. Et si en plus la nuit ça ne s'arrête pas, moi j'ai besoin vraiment d'aller voir mes amis, de dîner, de me vider la tête et de recommencer le lendemain, parce que sinon j'ai l'impression que je vais faire quelque chose qui ne sera pas de bonne qualité.
Et c'est pas trop difficile de justement pas mélanger aussi la partie chronique humoristique, écriture pour les spectacles et cette narration-là, qui est une narration plus littéraire.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'avais des jours où c'était le roman que j'écrivais, des jours où c'était les chroniques et des jours où c'était d'autres projets. Sinon, je m'en mêlais les pinceaux. Sinon, je me rendais compte que c'était compliqué de switcher d'une heure à l'autre entre deux styles différents. Donc, c'est vrai que je me ménageais des plages. En général, c'est 4 heures. Je ne sais pas écrire en moins. Je sais que si j'ai que 2 heures devant moi, je ne sais rien que je prenne mon ordi, parce que je vais avoir l'impression que j'ai pas le temps. Donc moi, c'est des plages de 4 heures où je fais 4 heures le roman, 4 heures les chroniques, 4 heures le spectacle.
C'est de l'organisation.
Ce n'est que ça, en ce qui me concerne.
Et vous n'avez pas de carnet où vous notez des choses pendant la journée?
Non, je prends des notes sur mon téléphone, étant un Gen Z, et je fais beaucoup de dictaphone. Des fois, des choses me viennent à l'oral et je les enregistre comme ça à la voix et ensuite je les remets un peu mieux.
Il y a de plus en plus d'auteurs qui font ça, effectivement, ouais. D'enregistrer. C'est pas votre cas, Florent.
Non, je ne sais même pas où ça se trouve.
Florent Oiseau, votre livre s'appelle Magloire. Il y a 2 sens à ce titre. L'un des deux est connu et l'autre, c'est un homme qui est dans un cimetière. Enfin, c'est un mort. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire qui est ce Magloire ?
C'est à la fois le plus petit et le plus vieux cimetière de Paris. Vraiment, il jouxte le Père Lachaise. Et je vais souvent m'y promener parce qu'il y a plein de chats. J'aime bien les chats. Non, je sens que je ralentis un petit peu le rythme de l'émission. Bon, et en tout cas, il y a une statue, une seule, dans ce cimetière. Et l'épitaphe m'a tout de suite intrigué, puisque cette épitaphe dit « Ici repose François Bègue, dit Magloire, peintre en bâtiment, poète, philosophe, homme du peuple et secrétaire de M. de Robespierre ». Bon, à part la dernière mention, j'avais déjà l'impression de voir mon CV. Donc, quelque chose est tout de suite vu, un sentiment fraternel qui nous unissait. Et en fouillant un peu, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un mythomane et que Robespierre n'avait fait mention de ce type absolument nulle part. Et que c'était juste une sorte de dandy, chaman, rebouteux. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est chouette si je pars enquêter là-dessus. Et j'ai prêté cette enquête à mon personnage principal.
Vous avez cette phrase, « Mentir de son vivant, c'est une chose. Fabriquer une fausse légende pour l'après, c'est de la poésie et rien d'autre. » Et donc, et ma question est la suivante, qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous après votre mort, Florent ?
J'aimerais bien qu'on enquête sur moi dans 250 ans. Mais oui, non, j'ai trouvé que c'était dingue, en fait. Et puis, les choses que j'ai pu découvrir en partant à la recherche de l'identité de cet homme, j'ai trouvé que tout collait, en fait. Ça aurait pu être quelque chose de totalement gratuit dans l'histoire, ça aurait fait une sorte de patchwork et je l'aurais mis quand même, parce que je n'ai pas non plus 40 000 trucs à raconter. Mais là, tout s'imbriquait et j'ai vraiment eu l'impression d'ouvrir un tiroir et qu'il y avait exactement ce qu'il me fallait dedans. Et il y a une espèce de résolution qui est d'une poésie folle. Et donc, je trouve ça fou, en fait, qu'un type, il meurt en 1832, je crois, enfin, orchestre un peu sa mort, ses funérailles, se fasse enterrer avec une bouteille, ça j'ai découvert plus tard, vu mon personnage, c'était presque inespéré. Et je trouve qu'il y a quelque chose de chouette dans les légendes qu'on laisse pour l'après. C'est une façon de se dire, bon, je serai probablement plus là, mais j'ai encore envie qu'on pense à moi, et c'est peut-être pour ça qu'on écrit des livres.
Et vous, Jessé, qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous à votre mort ?
Alors là, de qui est-ce que je pourrais être le secrétaire particulier ou l'inventer ? Je ne sais pas. De Lilia Hassen, peut-être qu'on dira ça.
Moi, je vous souhaite une chose un peu mieux quand même.
Oh, ça doit être du travail quand même. Non, peut-être, je ne sais pas, il nous aura fait rire parfois, entre les larmes, je ne sais pas. parfois. Je sais pas, c'est nul, ça se prend au sérieux. Non, je sais pas du tout. En tout cas, je sais même pas si on se souviendra de moi après ma mort, surtout.
Bah, peut-être de votre livre.
J'espère.
Merci beaucoup, merci Sandrine. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour vos conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Mickey, ça pique un peu quand même.
Dans ses yeux pistaches, je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux quand tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, y'a rien à faire. Je raccroche mon tête, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Comme un célibataire de 30 balais. Et quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Bip bip, ça me fout l'air. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Florent Oiseau et Jessé Raymond Lacroix et avec nos libraires du jour Sandrine Babu et Mike Vienno. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au livre etc. Lilia Hassen.
Et on retrouve Mike Vienno de la librairie Mediapole à Montréal. Mike, vous aviez un conseil pour Jessé Raymond Lacroix.
Oui, je sais, ce lien bouleversant avec votre mère m'a rappelé un autre livre que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Il s'agit de « Habiller le cœur » de Michel Plomer aux éditions Marchand de feuilles, un livre de 2019. C'est un roman plein de tendresse sur les extravagances d'une mère et l'amour franc d'une fille. Alors que la narratrice s'isole pour commencer un roman, sa mère de 70 ans décide de partir vivre dans le Grand Nord québécois. Un roman sur les difficultés de communication entre mère et fille, sur le manque de compréhension et l'écart entre la détermination d'une mère et les difficultés de sa fille qui n'arrive toujours pas à la comprendre. Mais mère et fille sauront se retrouver et se dire leur amour. C'est tout ce que je vous souhaite.
Merci Mike. J'avais une petite question à poser à Jessé Raymond Lacroix à ce sujet d'ailleurs. On a parlé de la relation avec votre mère. On sent dans votre livre que votre coming out que vous avez fait à l'âge de 18 ans, c'est ça ?
Oui.
A été en fait le détonateur presque du livre dans son ensemble. C'est la réaction qu'elle a eue. Est-ce qu'elle s'en est expliquée depuis ?
Oui, j'ai un peu eu un coming out avec mes deux parents qui étaient très différents, avec mon père et sa femme, où vraiment ils étaient là, bah, on savait en fait. Et ma mère est tombée des nues, alors que j'étais quand même persuadée que j'avais mis beaucoup d'indices tout au long de ces 18 années.
Elle n'a pas voulu voir.
Elle n'a pas voulu voir, tout comme le harcèlement, elle n'a pas voulu le voir. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, donc on en arrive encore là. Après toutes ces années, elle joue encore ce jeu-là du dupe.
Et puis de vous dire surtout que voilà qu'elle sera pas grand-mère.
Elle l'a tout de suite ramenée à elle, encore une fois, et elle a tout de suite eu un rapport très auto-centré sur ce coming out, qui est un acte toujours très difficile et il faut beaucoup de courage pour le faire. Et donc je me suis dit là, ok, on s'éloigne de plus en plus, et j'ai laissé cet éloignement durer 15 ans puisque j'ai écrit ce livre 4 ans de 3. Mais en tout cas, ça a permis une discussion avec ma mère qui m'a dit que les mots qu'elle avait eus n'étaient pas ceux qui auraient dû sortir et que malheureusement, ce qu'elle pensait n'a pas été ce qu'elle a dit. Mais malheureusement, moi, il ne m'a resté que ce qu'elle a dit. Tu vois, l'intention, on ne la connaît jamais, celui qui est en face. On n'a que les gestes, on n'a que les paroles. Et elle me dit qu'elle n'aurait pas dû faire ça et je l'accueille et j'essaye de lui pardonner tout ça.
Vous dites encore « j'essaye de lui pardonner ».
Oui, j'essaye de lui pardonner parce que c'est un travail long. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est ce que je dis, c'est un choix, le pardon. Et j'ai choisi de lui pardonner et de la croire parce que je sais qu'elle m'aime et moi je l'aime infiniment. Et je crois que notre relation, on se doit bien ça. Moi, je suis fils unique, j'ai qu'une mère, comme tous les gens. Mais en tout cas, elle n'a qu'un fils aussi. Et je sais que parfois, évidemment, les parents et les enfants ne sont pas éternels rapport à mon oncle Michel qui est mort trop tôt. Et j'ai envie de réparer ce lien avec ma mère très profondément avant qu'il soit trop tard.
D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites sur votre place aussi de fils unique, cette manière dont chacun essaie de s'approprier aussi votre amour.
Oui, bah quand on est fils unique, voilà, c'est la quintessence de ça, c'est à Noël quand on doit toujours être chez le père, la mère, la grand-mère, les belles-mères. Et du coup, j'essaye de le répartir de manière égale, toujours, mon amour. Mais malheureusement, la vie fait que parfois on est plus proche d'un parent que de l'autre. Et ça peut blesser l'autre. Et j'essaye de revenir là-dessus constamment, de montrer mon amour, et qui est d'un point de vue équidistant. Mais malheureusement, je n'y suis pas arrivé parce que ma mère s'est retrouvée un peu sur le côté de cet amour filial. Et ça, je m'en veux. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais recommencer, que j'aimerais effacer, et lui dire, en fait, finalement, je t'aime à ma mère.
Ben voilà, vous venez de le faire.
Ouais, je viens de le dire, j'espère qu'elle écoutera l'émission.
Oui, ça, j'en suis sûre. Il faudra faire un livre sur votre père, en revanche, pour compenser.
Il a déjà le spectacle, c'est tout le spectacle sur lui.
C'est vrai. Abby et le cœur de Michel Plomer, c'est donc aux éditions Marchand de Feuilles. Et vous, Sandrine Babu, vous aviez une recommandation pour Florent Oiseau.
Oui, donc c'est un livre qui s'appelle « La belle n'a pas sommeil » de Eric Holder, qui a été publié en 2018. Alors dans votre livre Magloire, votre héros quitte très exceptionnellement son 20e arrondissement pour prendre le train et il part dans une gare de Bercy que personne ne connaît et dont les trains ne mènent pas à la mer. Alors moi j'avais envie de vous emmener à la mer. donc cette fois c'est un livre qui se passe dans le Médoc et le personnage principal a une librairie d'occasion qui ne fait rien pour faire connaître, on a l'impression qu'il veut rester tout seul dans sa bouquinerie. Il s'intéresse à ses voisins, il tombe amoureux d'une conteuse qui lui vole des livres, qui bouscule ses habitudes et il est principalement absorbé par de menus événements qui pourraient passer pour insignifiants. C'est un livre doux et mélancolique que je vous recommande.
Le titre,
vous
c'est
connaissez peut-être d'ailleurs.
La belle n'a pas sommeil de Eric Holder et c'est aux éditions du Seuil.
C'est ça.
Non, sorti en poche aussi. Tout pour. Enfin, j'ai horreur du sable, mais en dehors de ça, ça a tout pour me plaire. Et je m'empresserai de le lire.
Vous allez souvent en librairie, Florent Oiseau?
Je vous aime dire, vous allez souvent à la mer. Ouais, bien sûr, évidemment. Ouais, c'est presque devenu un acte militant aujourd'hui. Donc, ouais, bien sûr. J'en offre presque plus que j'en lis, mais évidemment. Pas assez chez Sandrine, parce qu'elle est.
Beaucoup trop loin,
elle est dans le 15e,
à l'autre bout de la planète.
C'est quoi le livre que vous offrez le plus?
Alors, c'est pas par pingrerie, mais c'est un tout petit folio de 2 euros. Mais c'est. Petit éloge de la vie de tous les jours de Franz Bartelt. Pour moi, il y a tout dedans. C'est-à-dire que il y a des choses très, très mélancoliques. C'est un contemplatif. C'est un auteur qui ne sort jamais de ses Ardennes, mais qui arrive à en dire des choses sublimes. C'est drôle. Enfin, il y a vraiment tout dedans. Et je ne sais pas si chaque petite nouvelle sert à chaque fois à la personne à qui je l'offre, mais je suis persuadé qu'il n'y a jamais rien de vain et qu'on ce livre, on en retient toujours une phrase ou une pensée, une observation.
Donc petit éloge de la vie de tous les jours.
Ouais.
Ça vous va bien.
Merci.
Et c'est la fin de cette émission. Merci Jessé Raymond Lacroix, merci Florent Oiseau. Merci à tous les deux. Je recommande vivement vos ouvrages. Jessé Raymond Lacroix, Les bateaux sur la terrasse, publié aux éditions Robert Laffont. Un premier roman d'une sincérité assez rare, je dois dire, en littérature. On n'a pas eu tellement l'occasion d'en parler, mais il y a beaucoup d'échos aussi dans le livre. On comprend à quel point les histoires se répètent, à quel point les secrets reviennent sous des formes détournées parfois, se transmettant d'un membre à l'autre de la famille. Bref, c'est un roman plus profond qu'il n'en a l'air au premier abord et cette humilité n'est pas si fréquente. Donc je tenais à la souligner.
Merci.
Lisez également Magloire de Florent Oiseau aux éditions Gallimard. C'est de la poésie, un long poème en prose sur les histoires qu'on se raconte pour tricher sur le scénario de nos vies et survivre à notre quotidien. On ne peut que s'attacher au narrateur, à sa manière de dire « Je suis heureux que l'alcool me rende triste, je préfère que ça vienne de lui ». Il y a plein de phrases comme celle-ci aussi dans le roman, ça fuse, c'est vif, drôle et mélancolique. Merci également à nos libraires du jour, Sandrine Babu et Mike Viennot, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allom à la réalisation, Jérôme Ragano à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle qu'Olivre, etc. est une coproduction de la RTBF, de la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.